La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue. Si vous nous rejoignez, vous êtes au bon endroit pour découvrir des entrepreneurs, des initiatives, des parcours de vie. La France bouge. Ici, c'est simple. On trouve des solutions et elles sont françaises. On en parle ensemble avec Emmanuel Duteil, le chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Elisabeth Assayag. Bonjour à toutes et à tous. La vie reprend et on retourne même au concert, c'est dire. La plus grande salle couverte de spectacles d'Europe se prépare à des mois très intenses. On peut presque le dire, peut-être même avec l'une des plus belles programmations de l'histoire pour une salle française. Bathilde Lorenzetti, la vice-présidente de l'Arena Paris La Défense, est notre invitée jusqu'à 14h.
À la une donc le retour des concerts, ça fait du bien de le dire. Hein. Et une plateforme...
Vous adorez ça,
oui, oui, qui vous permet de créer votre propre billetterie en ligne pour un concert, pour une manifestation, avec passe sanitaire inclus. C'est très sérieux, on en parle d'ici quelques minutes, avec le fondateur de Wiz Event.
Alors, parmi les festivals que nous connaissons tous, les Francofolies de La Rochelle, cette année, eh bien, le festival aura bien lieu, hein, du 10 au 14 juillet. Quelle est l'histoire, tiens, justement, de ce festival créé en 1985? Ce sera notre saga du jour, aux alentours de 13h30.
Chaque jour, les trophées Europe 1, La France bouge, un projet défendu par celle ou celui qui en a eu l'idée. Aujourd'hui, l'équipe de La France bouge et notre partenaire, la CCI, ont retenu FIT. FIT, ce sont des boissons à base de fruits et légumes. Ce pitch va-t-il vous convaincre? Rendez-vous à 13h45.
Et en fin d'émission, demain au travail, on passera un coup de fil à une entreprise qui réunit ses équipes soit en thalasso ou en canoë. C'est sympa, me direz-vous? Eh bien, on en parle aux alentours de 13h50.
Bienvenue dans La France bouge. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
La France bouge sur Europe 1.
Et oui, elle bouge et donc elle se remet à chanter. Bref, à vivre. On parle de tout cela jusqu'à 14h.
Bonjour Bathilde Lorenzetti.
Bonjour.
On est ravis de vous recevoir.
Moi aussi,
merci,
je suis ravie.
Merci de revenir. Vous étiez venu en début de saison, hein, c'était au mois de novembre, hein, pour nous dire combien c'était très compliqué d'avoir une salle fermée, hein, parce que vous êtes la vice-présidente de l'Arena Paris La Défense, qui est la plus grande salle de concert d'Europe.
Absolument.
Elle peut accueillir jusqu'à 40 000 spectateurs. Cette salle, souvenez-vous, elle avait été ouverte en fanfare hein, en 2017. Vous y... Quelle
avec
chance. En plus, vous n'aimez pas la musique. Franchement,
non, mais bon, j'y étais
c'est
quand même.
Injuste. Avec les Rolling Stones qui avaient enflammé la scène à 3 reprises. La crise est arrivée. La salle a dû se fermer depuis mars 2020. Bathilde Lorenzetti, vous avez accueilli il y a quelques jours votre premier match de rugby avec... 5000
absolument,
spectateurs, hein, c'est ça.
Absolument, on a joué donc le Racing 92 contre le Stade Français vendredi dernier pour les quarts de finale de Top 14 avec un public pour la première fois. Donc ça a été vraiment une grosse émotion pour nous.
Bah oui, parce que...
limité à 5000, mais on était quand même contents d'avoir enfin du public.
Donc ça redémarre. Vous avez pu reprendre un peu de billetterie. Hein, 93%, faut le dire, de vos salariés avaient été en chômage, mis au chômage partiel. Ça y est. Ça repart. Comment ça va après cette expérience de vendredi et des 5000 spectateurs pour le match de rugby?
Bah écoutez, on était ravis. C'est vrai que bon, les salariés sont revenus. Mmh. Pour certains, ça faisait vraiment très longtemps qu'ils n'avaient pas travaillé. Et c'est vrai que bon, bah il y a eu des petites choses qu'on va devoir améliorer. C'est vrai que voilà, mais c'est.
Qu'est-ce que vous allez devoir améliorer par exemple?
Oh bah écoutez,
On a perdu un peu l'habitude quand c'est ça.
C'est pas vraiment ça, mais c'est vrai que des petites choses qui peut-être fonctionnaient moins bien. On a eu une porte qui s'est pas ouverte. Enfin, c'est un détail, mais disons que bon, on est toujours dans l'excellence. On veut vraiment que tout soit parfait, donc voilà.
Ce qui change tout, c'est le pass sanitaire, puisque pour pouvoir aller à ce genre d'événement, on l'a vécu avec Elisabeth à Roland-Garros, hein, puisque Europe 1 était radio partenaire. Il faut venir avec son pass sanitaire, il faut pouvoir prouver sa vaccination.
Absolument.
Et ou ses tests antigéniques et PCR. Vous, ça vous demande quand même un sacré boulot de vérification.
Bah, disons que c'est assez simple. Hein. On a un système avec un iPad. On a évidemment l'application Tous en dit Covid. On scanne, on vérifie l'identité. Et puis voilà, en réalité, c'est très rapide. Je l'ai vécu moi-même à Roland-Garros samedi, parce que j'ai eu la chance d'avoir été invitée. Ça va très vite. Hein. On a eu d'ailleurs des compliments de nos spectateurs et de nos invités vendredi. Ça a été très vite, très fluide. Pas de goulot d'étranglement. Donc en réalité, c'est un contrôle de plus. Mais bon, j'ai envie de dire que c'est... voilà, là-dessus, on est assez rodé et on n'a pas eu de difficultés. Et puis bon, on a accueilli 5000 personnes. On a une très grande salle avec pas mal d'entrées, donc c'est vrai que ça nous permet d'organiser ça pour le confort du spectateur qui n'est pas d'attente. Nous, c'est toujours une priorité pour nous.
Donc, passe sanitaire, vérification de la vaccination ou du test PCR. Une fois à l'intérieur, on garde notre masque.
Absolument.
Donc même pour un concert, on a envie de chanter, danser, tout ça, il faut garder le masque.
À ce jour, c'est obligatoire.
C'est obligatoire.
On avait évidemment le pass sanitaire avec un siège sur deux et les groupes de familles séparés les uns des autres par des sièges. Il n'y a pas eu de difficulté chez nous, puisque évidemment, on a une très grande salle.
Alors, il paraît que là, les mois à venir vont peut-être être historiques chez vous. C'est vrai qu'il va y avoir la plus belle programmation peut-être de l'histoire d'une salle française, tellement que ça nous a manqué, tellement que vous avez dû annuler. Ça va être full tous les soirs en 2022
? Ouais. On a en 22 effectivement une programmation extrêmement dense. Elle commence également en 23 et 24. On accueille normalement les Jeux Olympiques de natation, comme vous peut-être vous le savez. Donc effectivement, on va avoir une période extrêmement dense, tant en spectacle, en sport événement, concert.
Mais pour qu'on ait une idée, dense, est-ce que ça veut dire historique ? Quand vous aviez fait la programmation à la base de votre salle quand vous avez ouvert en 2017, est-ce que vous auriez pu imaginer qu'en 2022, vous soyez plein quasiment tous les soirs ? Ou je caricature ?
Bah écoutez, effectivement, sur l'effet des reports, mais également le choix des artistes, du coup, de faire plus de dates, de tourner alors qu'ils avaient décidé de ne pas le faire. Tout s'est concentré sur 22 parce qu'effectivement, sur les grosses tournées internationales, en 21, ça va être encore très mitigé. Je pense qu'effectivement, les Zénith ou d'autres salles plus petites vont pouvoir accueillir des concerts plus tôt que nous. Nous, c'est vrai qu'on a un modèle économique et on a aussi une clientèle d'artistes très importante, très internationale.
Alors, qui sont les grands noms qui vont venir ? Faites-nous rêver.
Ah, écoutez,
allez,
ah bah, allez c'est bon, on est entre nous. Hein.
Comme d'habitude, il y a des choses que je ne peux pas encore annoncer. Disons qu'on est plein de avril à juillet, donc il y a des artistes que vous connaissez déjà, parce qu'évidemment, il y a Céline Dion va revenir, on a les concerts qu'on a décalés. Honnêtement, sur les plus gros artistes, on est assez contents, parce qu'on va effectivement les accueillir. Tous ceux qui tournent vont être chez nous entre avril et juillet.
Mais vous aviez dit tout à l'heure, il y a des gens qui n'auraient pas dû venir et qui ont signé avec nous. Donc ça veut dire que vous avez suscité des envies pendant cette période ?
Disons que, alors déjà, on est content parce qu'on a mené un gros travail depuis 2017 avec les productions. C'est vrai qu'on était une salle un peu hybride, un peu inconnue, qui faisait peur, tant aux productions qu'aux artistes, qui avaient eux-mêmes un peu leurs habitudes. En France, c'était très simple. Vous aviez soit une tournée stade au Stade de France, soit une tournée d'aréna qui était plutôt à l'Accor Hôtel Arena. Et donc, on est venu, nous, avec un modèle hybride un peu dans l'entre-deux. Et au début, on a fait, je pense, un peu peur. Après, c'est vrai que comme on est une salle complètement privée, avec tout internalisé chez nous, on dirige tout. Je pense qu'on a montré beaucoup de professionnalisme.
Et puis elle est modulable, c'est un peu du sur-mesure.
Absolument,
votre salle.
C'est du sur-mesure pour chaque production.
Mais on va en parler justement.
Pour les faire venir, vous avez dû brader les prix ou au contraire, il y a eu tellement de demandes que vous avez pu dire hop,
non,
à
non,
zéro
on
plus.
Est au prix. On ne peut pas brader parce qu'on a une salle qui aussi a des prestations avec un prix, on a un coût. C'est une salle qui coûte cher au quotidien. Ça a été un vrai problème pour nous d'ailleurs pendant le Covid. Mais non, on ne brade pas du tout.
Forcément, il y en a de plus en plus, donc là, il n'y a pas besoin de brader.
Bah écoutez, honnêtement, je suis fière de dire que quand un artiste vient chez nous, il ne va pas ailleurs après.
Et bien justement, on va continuer à parler de cette merveilleuse salle de l'Arena Paris La Défense, Bathilde Lorenzetti, vous en êtes la vice-présidente et vous restez avec nous.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Elle bouge, elle chante, elle se trémousse cette France et ça fait du bien, surtout avec le beau soleil aujourd'hui sur toute la France. On parle de tout cela avec Bathilde Lorenzetti qui est la vice-présidente de l'Arena Paris La Défense.
Et organiser un concert, une petite manifestation sans avoir à se préoccuper de la billetterie, du paiement. On a trouvé la solution de billetterie, de contrôle des accès, de paiement sans contact. Et c'est vous qui en êtes à l'origine. Pierre-Henri Deballon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le PDG de la plateforme WizEvent. Vous êtes très précurseur parce que WizEvent, ça existe depuis 2008. Vous avez donc aujourd'hui des bureaux à Paris, mais aussi au Canada et à Londres. C'est une solution de billetterie en ligne afin que l'organisateur, déjà du côté de l'organisateur, il ait toutes les recettes de son événement de manière instantanée. Du côté de l'utilisateur, il récupère son billet, il n'a plus besoin d'aller dans un guichet, les retirer, etc. Et depuis 13 ans, vous n'avez jamais cessé d'innover chez WizEvent.
Non, on est une vieille start-up, mais on continue à innover.
Mais c'est fou ça, c'est formidable.
Et on est d'anciens organisateurs d'événements, donc cette première solution de billetterie en ligne, donc en self-service, on l'a créée finalement pour nous, parce qu'on avait des difficultés à vendre des billets, comme beaucoup d'autres organisateurs, et finalement on s'est dit, mais en fait, on va créer le produit dont on a besoin, en essayant de casser les barrières rencontrées, donc les barrières techniques, parce que moi je suis pas du tout développeur. Le temps de mise en place était assez long sur une billetterie, donc là c'est instantané. Et puis en intégrant, vous l'avez dit tout à l'heure, la partie paiement, paiement en ligne et le reversement des recettes avant l'événement, ce qui permet de financer et de commencer à lancer l'événement. Et puis autour de ça, on a développé des solutions de contrôle d'accès, parce que finalement on édite un billet et donc il faut aider l'organisateur à scanner les billets. Et puis des solutions de paiement sur les très gros événements, donc on équipe par exemple le Hellfest, les Vieilles Charrues, où on va fournir aux festivaliers un bracelet qui permet de payer toutes ces consommations pendant l'événement.
Alors la crise est sur le point de se terminer, en tout cas on croise les doigts, vous avez été bien évidemment l'un des premiers secteurs touchés. On l'entend là avec la salle de l'Arena Paris La Défense, ça repart. Vous le voyez vous aussi, vous croulez sous les demandes.
Ça y est, on le voit, les organisateurs se réveillent parce qu'ils étaient Mais quand je dis se réveillent, ils étaient un peu en hibernation, c'est-à-dire qu'ils ne savaient pas réellement à quelle sauce ils allaient être mangés. Maintenant qu'il y a un peu de visibilité, ils peuvent se projeter. Donc on a des festivals qui commencent à s'organiser sur des jauges adaptées. Alors c'est pas les festivals qu'on connaît parce que ça va être souvent des festivals avec des chaises où on va avoir des contraintes sanitaires spécifiques à respecter, mais il y a un engouement très fort. Et ce que vous demandiez tout à l'heure par rapport à 2022, nous on pense que 2022 va être historique parce qu'il y a côté acheteur une très grande demande. Donc des événements qui n'étaient pas sold out risquent de le devenir. Et puis dans le même temps, vous avez des événements qui veulent rattraper le temps perdu, des festivals qui vont se dérouler sur deux week-ends, des festivals qui augmentent la jauge, qui augmentent la durée. Et donc on a un vrai engouement. Vous parliez de notre bureau à Londres, les festivals ont réouvert, en tout cas les billetteries ont réouvert quand Boris Johnson a ouvert les vannes, et des festivals qui mettaient peut-être 6 mois parfois avant de leur billet ont été sold out en 3 jours. Donc ils ont tout vendu leurs billets. Donc on sent qu'il y a un vrai engouement. Ce qui est difficile, c'est que les équipes sont un peu rouillées, donc il faut remettre tout le monde au travail.
Vous allez embaucher, j'imagine, puisqu'il y a énormément de travail.
Alors là, on va commencer à embaucher. Surtout, ce qu'on va faire, c'est qu'on avait beaucoup de gens qui étaient en chômage partiel et donc on les fait revenir au boulot.
Mais c'est intéressant ce que vous dites, les équipes sont rouillées. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une sorte de léthargie pendant la longueur de ce Covid, surtout pour des activités comme vous qui sont à l'arrêt
depuis
le tout premier.
Très jeunes en plus. Et du coup, c'est épuisant mentalement parce que c'est des gens qui aiment aller sur le terrain, qui aiment être cheville ouvrière de ces événements et donc très actifs. Et puis là, du jour au lendemain, bah, vous êtes chez vous, pas beaucoup de travail. Et donc là, ça repart d'un coup. Donc il faut. Il y a un petit coup de pression, mais c'est ce qu'on aime aussi. Et donc, effectivement, on va recruter de nouveau.
Alors, vous le disiez tout à l'heure, Pierre-Henri de Ballon, vous êtes une start-up qui a 13 ans, mais toujours une start-up parce que vous avez plein d'idées, vous n'arrêtez pas d'innover chez WizEvent. Et alors, justement, vous n'avez pas reçu de prêt garanti par l'État, mais en pleine crise, mais vous avez eu l'audace de racheter un concurrent belge pendant la crise. Mais comment vous avez fait ?
Alors, on est entré très fort dans cette crise, c'est-à-dire qu'on avait une société qui allait bien, qui avait de la rentabilité, on n'a jamais distribué de dividendes, on réinvestissait toujours dans le produit pour innover, comme vous l'avez dit. Et puis, notre modèle étant basé sur quelque chose de rentable, on n'était pas suspendu à des financements extérieurs, donc à des levées de fonds. Et cet acteur belge, on avait essayé de le racheter il y a 2-3 ans, ça ne s'était pas fait, il avait préféré lever des fonds. Et puis là, avec la difficulté de la crise, on a repris les discussions et on a trouvé un scénario où les fondateurs sont à nos côtés et où nous, ça nous permet de nous développer encore plus à l'international.
Bathilde Lorenzetti, je rappelle que vous êtes la vice-présidente de l'Arena Paris La Défense. Je crois que vous n'avez pas eu d'aide, vous non plus. Et quand on a préparé cette émission avec Elisabeth, pour être très honnête, on avait du mal à comprendre
comment
c'est possible.
Bah écoutez, quand je dis on n'a pas eu d'aide, on a eu effectivement des aides dans le cadre réglementaire, c'est-à-dire...
Le chômage partiel et autres.
Voilà, le chômage partiel, le PGE, effectivement, mais le PGE, ça reste un prêt qu'on doit rembourser. Donc... c'est une facilité qui, en tout état de cause, n'est pas...
Je crois qu'on peut lire. Sur 25 millions d'euros perdus, vous avez eu l'équivalent de 400 000 euros d'aide, c'est ça ?
À peine. On est en demande. Mmh. Disons qu'on a eu à peu près aux alentours de 7-8 millions cumulés, mais là je parle du chômage partiel, des allègements fiscaux et sociaux dont toutes les sociétés ont bénéficié dans le cadre réglementaire. En revanche, les aides dont certains ont pu bénéficier d'accompagnement pour maintenir les équipes à flot et la société à flot, on a eu à ce jour rien du tout. Zéro.
Mais vous espérez avoir ?
On a fait des demandes, on espère avoir...
Mais justement, Bathilde Lorenzetti, vous êtes dans une période où chaque euro compte. Et on a du mal à imaginer une si grande salle où vous avez un plan d'économie à l'euro près. Je crois que ça va jusqu'à l'électricité et l'eau chaude.
Absolument, ouais. On a travaillé sur tous les coûts. Donc là, nous, on a en plus un bilan et un exercice en fait... qui s'arrête au 30 juin. Donc là, on est évidemment dans nos clôtures de budget, mais également dans nos clôtures de compte et nos budgets de l'année prochaine. Et effectivement, on travaille sur tous les coûts.
Incroyable.
On a essayé de raboter à tous les niveaux pour pour avoir le maximum de coûts qui sont réduits et puis optimisés et pouvoir repartir avec cette année 22. Je suis d'accord avec vous, 22 va être une année exceptionnelle, je pense, pour tout le monde.
Historique, a dit Pierre-Henri de Ballon. Année historique. Ouais.
Est-ce que vous avez eu peur, Pierre-Henri de Ballon, de ne pas vous en relever ? de vous dire à un moment, ça ne va pas s'arrêter, ça ne va pas finir et on ne s'en sortira pas.
J'ai pas eu peur, mais aussi par naïveté, parce qu'on pensait que ça allait durer 3 mois. Donc au début, vous
rappelez, vous rajoutiez 3 mois.
Et à chaque fois, on rajoutait 3 mois. Et puis, on a été quand même très aidés, parce que le gros de nos dépenses, c'est des dépenses humaines. Et donc, le chômage partiel a été très généreux. On l'a vu, on a des bureaux en Espagne et dans d'autres pays, c'était beaucoup plus difficile, ne serait-ce que pour obtenir des aides et surtout des aides beaucoup plus petites. Donc oui, il y a eu quand même une inquiétude, mais qui est une inquiétude qui venait au fur et à mesure. Surtout
et de tous les
quand
festivals dont là vous allez vous organiser, il faut qu'on aille où avec Elisabeth? C'est quoi votre petit chouchou?
Là, il faudrait aller à Barcelone, au Cruïlla Festival, parce que c'est un des premiers festivals européens qui va se dérouler en jauge pleine et sans distanciation sociale. Et donc on bosse avec eux d'ailleurs. Et c'était ceux qui ont fait le concert test de Barcelone.
D'ailleurs, vous avez participé au concert test et de Barcelone et celui de Paris.
Et celui
c'est
de
vous,
Paris.
La Alors, logistique
on a mis toute la partie
derrière,
technologique derrière. Effectivement,
ouais,
sur Barcelone et Paris. Donc il y aura ce festival-là, mais il y a aussi beaucoup de festivals français qui vont avoir lieu. Moi, je pense au festival d'Ambert, un petit festival par exemple qui va avoir lieu bientôt. Et il y en a d'autres comme ça que je peux citer parce qu'on a à peu près 2000 festivals qui utilisent notre solution. La France est un des pays où il y a le plus de festivals en plus.
Allons au concert. Merci à vous Pierre-Henri Deballon. Je rappelle que vous êtes le PDG de la plateforme With Event.
Merci.
Et Bathilde Lorenzetti, on vous garde avec nous. Vous êtes notre grande témoin aujourd'hui, vice-présidente de l'Arena Paris La Défense.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
La France bouge et on parle concert aujourd'hui. Notre invité Bathilde Lorenzetti qui est à la tête de la Défense Paris Arena. Je l'ai donné dans le bon sens, c'est bon
Paris
ce que c'est.
Paris la Défense Arena.
Voilà,
on va
Paris
y arriver.
La Défense Arena, on va y arriver parce que depuis le début de l'émission, je me trompe, mais je suis vraiment pas doué dans le sens de donner les bons mots. Alors, on continue avec vous. On l'a entendu, une année historique pour 2022. Est-ce que ça veut dire qu'Elisabeth, moi, là, les auditeurs à la maison en voiture, on doit se préparer à acheter nos billets?
Oui, absolument.
Oui, mais les acheter à des prix que l'on n'a pas connus tellement que ça va être cher.
Non, pas du tout, pas du tout. C'est pas du tout l'idée. Ça sera des prix en accord avec la clientèle et les spectateurs. Tout ça, on va pas...
Il n'y a pas un effet rattrapage.
Non, pas du tout. Absolument pas, parce que bon, l'idée, c'est quand même d'être sold out, c'est que les gens viennent. Et puis, c'est pas du tout dans l'esprit ni des salles ni des producteurs de survendre des billets. Et après, c'est vrai que c'est exactement ce que disait tout à l'heure le PDG de With Event. C'est vrai que la différence, c'est qu'il y a une énorme appétence pour les spectacles, le sport événement, etc. Donc, la différence.
Là, vous voyez
c'est...
par exemple sur votre site internet, dès que vous mettez la moindre chose en vente ou une petite annonce, c'est record la rapidité
Absolument.
Avec laquelle on
c'est
réserve.
C'est vrai que je suis d'accord avec ce qu'il disait. Ce qu'on pouvait vendre avant. En plusieurs mois, on va le vendre en 2 jours. Section d'Assio, par exemple, qu'on avait mis en vente l'année dernière, on l'a vendu en 2 jours, les 2 dates. Donc voilà, c'est vrai que c'est un concert qu'on allait très bien vendre, mais là, c'est vrai que la rapidité du sold out est pas commune, quoi. Disons que ça va très très vite. Donc c'est un peu ce qu'on constate. Les gens ont vraiment de l'appétence, ce qui nous rassure, puisqu'on avait quand même le sentiment que des grandes salles comme les nôtres étaient un peu la bête noire de la France avec ce Covid. C'est une grande salle, vous êtes fermée, vous allez forcément être contaminé. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, en réalité, les gens ont tellement été mis sous pression avec des restrictions de liberté extrêmement fortes qu'ils ont ce besoin de revivre. Ils ont besoin d'aller au restaurant, de faire la fête. On le voit avec toutes les soirées sauvages, hein, tous les week-ends, c'est un peu compliqué. Et chez nous, il n'y a absolument aucune crainte des gens de venir dans une salle pour assister
Donc
à un concert.
Donc ça veut dire que vous rassurez bien, tout est mis en place pour rassurer vos spectateurs. Pendant ces mois, vous avez aussi mis en place des spectacles virtuels pour pouvoir compenser et en même temps être présent pour tout le monde au niveau des concerts et des spectacles. Comment s'est passée cette expérience de concert virtuel?
On devait le faire, ça n'a pas été le cas.
Ah.
Effectivement, c'était un projet qu'on souhaitait faire à l'époque, en septembre, quand j'étais venue. J'en avais discuté parce qu'on avait cette jauge de 5 000, mais en réalité, assez rapidement, de 5 000, on est passé à 1 000 et de 1 000, on est passé à 0. On a souhaité effectivement mettre en place cette solution et on n'a pas eu véritablement d'envie, de désir des promoteurs et des artistes.
C'est-à-dire que cette crise ne va rien changer d'une certaine manière. On va retourner au concert normalement. Il ne va pas y avoir une sorte de deuxième billetterie si on a envie de regarder le concert derrière son ordinateur ou sur sa télé en même temps, en direct que dans la salle.
Non, je pense qu'effectivement ça a été utilisé par certains, beaucoup aux États-Unis. C'est quelque chose qui a beaucoup marché aux États-Unis. En France, assez peu. Parce qu'effectivement, notre cœur métier, c'est quand même la billetterie, c'est que les gens se déplacent. Je pense qu'il y avait peut-être une crainte que ce soit une billetterie concurrente et qui se fasse au détriment de la billetterie présentielle. Donc, C'est vrai qu'on le voit, par exemple, c'est vrai qu'on a développé beaucoup la visioconférence pendant le confinement, et on constate que c'est quelque chose qui reste. Donc peut-être qu'il y a une crainte, effectivement, des promoteurs de tomber sur quelque chose de qui ne correspond pas...
De moins
pas.
Exceptionnel, finalement, de ce que l'on voilà. peut trouver dans vos salles de spectacle. Vous êtes sold out, on l'entend, hein, vos concerts vous sont remplis pour 2022. Oui. Est-ce qu'il va falloir faire rentrer quand même de l'argent dans les caisses, donc tous oui. les moyens sont bons. Est-ce que vous allez proposer plus d'offres ou plus de produits dérivés, des objets, j'en sais rien, pour remplir les caisses?
Écoutez, on a fait un gros travail, encore une fois, de réduction des coûts. Hein, c'est vraiment notre quotidien. C'est vrai qu'on a eu quelques salariés qui sont partis pour aller vers d'autres horizons parce qu'effectivement, ils ont été au chômage partiel longtemps. Certains l'ont moins bien vécu que d'autres. Donc, c'est des postes qu'on n'a pas forcément remplacés. On a licencié absolument personne. On a gardé tous nos salariés, mais effectivement, il y a des postes qu'on a pas remplacés. Ensuite, effectivement, on a un travail de charge au quotidien sur lequel on travaille pour toujours économiser. Sur l'offre, on reste sur une offre assez classique pour un concert. Vous avez le billet, le merchandising, et effectivement les buvettes de grand public. On travaille par contre sur une diversification des offres, par exemple le B2B, pour avoir plus d'offres commerciales à différents niveaux. Par exemple, on travaille sur, j'aime bien le terme, la premium économie comme en avion, c'est-à-dire que vous avez les hospices, les loges, vous avez le grand public, on essaie de développer des offres intermédiaires. Donc on essaye pas d'augmenter les offres, mais en tout cas d'augmenter les propositions commerciales pour avoir vraiment un panel pour satisfaire à toute notre clientèle.
Chaque jour dans La France Bouge, Bathilde Lorenzetti, on se pose et on découvre l'histoire d'une marque, d'un endroit ou d'un produit qui font la fierté de notre pays. Souvent, ils existent depuis longtemps. Et aujourd'hui, on va découvrir l'histoire d'un festival incontournable. Il existe depuis 36 ans et sa mission, c'est de rendre hommage à la chanson française. Entre 1985 et 2004, ce festival a permis à des jeunes chanteurs de débuter. Tiens, allez, je vous cite par exemple Étienne Dao ou plus récemment Camille.
Oui, alors vous avez deviné, oui bien évidemment, ce sont les Francopholies de La Rochelle qui vont bien avoir lieu cette année du 10 au 14 juillet. Et c'est notre chanteur à nous, notre crewman à nous, Quentin Paillet.
Europe 1, La France bouge, la saga.
La Rochelle est connue pour ses vélos en libre-service, les premiers en France, pour ses tours à l'entrée de son vieux port, mais aussi et surtout pour son festival, les Francopholies, célèbre dans le monde entier. Tout commence en 1985, Jean-Louis Foulquier est journaliste à la radio, il voyage au Québec et il découvre la Francofête. Il rentre chez lui à La Rochelle et en se promenant en bas des remparts, sur un parking, il décide que son festival de la chanson française aura lieu ici. Gérard Pont, directeur des Francopholies.
Alors, comme il était homme de radio, il avait beaucoup de contacts avec des artistes et à l'époque, tous les artistes qui étaient au sommet, c'est-à-dire Jacques Higelin, Hubert-Félix Thiéphaine, Renaud, on dit oui et ça a été le début du festival. Alors ce qui est très étonnant, c'est que les réservations étaient très 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 mauvaises et ils pensaient que ça allait être un bide terrible. Et la veille, les gens de la SNCF l'ont appelé en disant que ça allait être un raz-de-marée parce que des gens avaient réservé de partout pour arriver sur La Rochelle. Et la première édition ayant été un succès, il y en a eu une deuxième et puis on en est à la 36e.
Le succès des Francopholies ne se dément pas. En 2019, ce sont pas moins de 150 000 spectateurs qui ont assisté aux 4 jours du festival. Depuis 1985, de très grands chanteurs et chanteuses sont passés par La Rochelle comme Véronique Sanson, Johnny Hallyday, Julien Doré, Mika ou encore Clara Luciani.
On défend la scène francophone, donc ça peut être des artistes de tous les pays francophones qui vont du Liban en passant par le Vietnam, évidemment les pays d'Afrique, la Belgique, la Suisse. Il nous arrive d'avoir des artistes français qui chantent en anglais, des artistes anglais qui chantent en français. On n'a pas d'œillère particulière, mais c'est vrai qu'avant tout, notre ligne éditoriale, c'est de défendre la chanson, la langue française. J'aimerais bien aussi qu'on accueille Sting chantant en français. Souvent, nous, les Français, on a un complexe par rapport aux artistes anglo-saxons, et alors qu'il y a plein d'artistes anglo-saxons qui adorent notre langue, qui adorent chanter dans notre langue. Voilà, je trouve que ça, c'est aussi des pieds de nez que j'aimerais bien réussir.
Mais les Francopholies, ce n'est pas qu'un festival musical.
Un festival, ça ne doit pas être que juste la consommation de spectacles. Ça doit être plus que ça. Donc on a créé tout un tas de choses. Les folies littéraires sur la littérature autour de la chanson. On a créé Franco-Océan parce que La Rochelle, c'est évidemment au bord de la mer. C'est important aussi pour nous que les festivaliers respectent l'environnement, respectent la mer qui est notre cadre idyllique pour ce festival. On a créé les Franco-Gourmandes. C'est-à-dire qu'on travaille avec les restaurateurs pour qu'ils fassent les plats préférés des artistes du festival.
D'une certaine manière, l'idée spécialisée des francopholies est née hors de France. Alors le festival a essaimé un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, on compte 5 francopholies à l'étranger, en Belgique et en Bulgarie par exemple, et surtout à Montréal. Cette année, celui de La Rochelle aura lieu entre les 10 et 14 juillet prochains.
Voilà, allez, on réserve tous nos places pour partir tous ensemble.
On a tous envie,
toute l'équipe de
hein,
la France.
En train d'en parler.
On va aller faire une émission spéciale, tiens, peut-être du côté des francopholies. On va voir si encore tout ça est possible. Merci en tout cas à Quentin Paillet.
Bathilde Lorenzetti, vous êtes la vice-présidente de Paris La Défense Arena et vous restez avec nous.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Allez, c'est parti pour les trophées Europe 1, la France bouge chaque jour. Elle ou ils tentent de vous convaincre. Pour ça, ils défendent leur dossier devant l'œil attentif et exigeant de notre témoin du jour, en l'occurrence aujourd'hui, Bathilde Lorenzetti à la tête de la Paris La Défense Arena, la plus grande salle de concert d'Europe. Alors, pour rien de vous cacher, pendant la pub, on essaye d'obtenir le nom des artistes qui vont venir. Il paraît qu'on a un indice.
On est en quiz, là, en fait.
Ceux qui sont venus reviennent. Donc, a priori, un groupe va revenir. À vous de chercher. On vous offre un petit cadeau Europe 1 si jamais vous trouvez la réponse d'ici à la fin de l'émission. Et on dit également un grand coucou à Nathalie Garret, notre fée de la Chambre de commerce et d'industrie.
Et encore une bonne idée dans la France bouge. Aujourd'hui, c'est une boisson en vente depuis le début de l'année. Bonjour Charles Gassier.
Bonjour, merci de me recevoir.
Merci à vous. Vous avez 29 ans, vous venez de Nîmes et vous êtes le fondateur de FIT. Alors FIT, ça s'écrit P-H-Y-T-E. C'est une entreprise que vous venez de fonder avec votre frère. Ce sont des boissons à base de fruits et légumes. Alors là, je suis en train de voir, on a le velouté de pommes, betteraves, citron, carottes, par exemple, ou encore le raisin, épinard, chou vert, pomme. Alors vous êtes déjà dans le milieu des fruits et légumes parce que vous êtes la 5e génération d'une entreprise familiale et agricole, d'où l'idée de FIT. Bah allez, on va vous laisser nous raconter. C'est parti pour votre pitch.
Allez,
vous avez une minute.
C'est parti. Alors FIT, voilà, c'est vraiment une nouvelle façon de consommer des fruits et légumes. Et comme vous le disiez, nous, à la base, on est agriculteurs. Donc mon frère et moi, on est la 5e génération. Et en rejoignant l'entreprise il y a un petit peu plus d'un an, ça nous tenait vraiment à cœur de créer quelque chose de nouveau. Donc pour ça, on s'est entouré d'une chef et d'une nutritionniste qui nous ont aidés à créer notre gamme de boissons végétales qui sont originales, saines et gourmandes. Donc original parce qu'on fait des alliances de fruits et légumes qui sortent vraiment de l'ordinaire, type carottes, poivrons rouges et oranges. Saine parce qu'on utilise vraiment des légumes, ce qui nous permet d'être 40% moins sucré qu'un jus de fruits traditionnel. Et enfin gourmande, ça c'est tout le travail qu'on a fait sur les recettes, où on voulait vraiment sublimer les fruits et légumes et non pas offrir quelque chose de nouveau qui soit sain mais qui sacrifie le goût. Donc comme vous le dites, on s'est lancé en début d'année. Et donc pour tous ceux qui sont curieux, je vous invite à jeter un coup d'œil sur notre site fit.fr.
Et on peut déjà vous trouver, je crois, dans certaines boutiques, notamment, on peut le citer, hein, la grande épicerie à Paris, parce que vous avez dit à notre équipe, on est trop contents d'y être, donc nous on était trop contents de le signaler. Vous n'avez pas donné le prix, sauf si j'ai mal écouté, mais c'est 3 euros le prix d'une petite bouteille, de la taille d'une petite bouteille de coca.
C'est ça, on est entre, en fonction des points de vente, 2,50 euros et 3 euros.
Bonjour Nathalie Carré.
Bonjour Elisabeth.
Experte à la Chambre de commerce et d'industrie, experte en entrepreneuriat. Elle a des petites choses à vous dire. Quelles sont les forces et les faiblesses de FIT selon vous?
Alors les forces, les Français sont complètement fans des jus de fruits pressés. C'est maintenant 60% des parts de marché, donc bravo pour le positionnement. Bravo aussi pour le 0% de sucre ajouté. Les parents notamment sont de plus en plus vigilants à l'apport de sucre pour leurs enfants, mais aussi pour eux aussi d'ailleurs. Et puis vos emballages, ils sont gais, ils sont colorés, on a vraiment envie de goûter. Et bravo pour le travail qui fait sur la durée de conservation des jus, puisqu'on est à peu près à 40 jours. Quelques points améliorés, en fait vous êtes très, très, très nombreux sur ce marché, mais vous avez une différence capitale, c'est, vous l'avez dit, l'histoire familiale et l'exploitation agricole. Il faut plus utiliser ce patrimoine pour vous distinguer et créer des jus 100% de chez vous, en fait, de l'exploitation au vert, avec une gamme de produits qui s'appuie sur les fruits de chez vous, les légumes de l'exploitation voisine et qui évolue au fil des saisons, comme les cultures. Les Français veulent du terroir, du made in France, vous êtes dedans, profitez-en. Là, il y a une espèce d'incohérence entre nous sommes agriculteurs depuis 5 générations et certains jus qui sont à moins de 50% français, entre guillemets. Et puis, si vous développez des goûts plus audacieux que pomme-raisin, c'est une bonne chose, il faut expliquer les saveurs et la composition en détail parce que c'est pas facile, à distance notamment, de savoir si on va aimer un épinard, choucal, raisin, pomme, voyez-vous. Donc creusez à fond le sillon, je sais même, le choucal, j'ai jamais goûté. Creusez à fond le sillon de vos origines.
On va vous en acheter, on va vous l'envoyer.
Je suis ravie. Pas sûr. Et creusez donc à fond le sillon de vos origines pour donner de l'originalité à vos produits et décrivez au maximum ce que vous proposez pour faciliter l'achat à distance.
Alors, c'est hyper intéressant ce que vous dit Nathalie Carré, Charles Gassi. Hein. C'est juste 100% de chez vous. Il faut raconter votre histoire. Il y a une entreprise familiale, vous en êtes la cinquième génération. Il y a quelque chose à raconter.
Bien sûr, nous, on essaye de s'y mettre au maximum. Notamment sur les réseaux sociaux où petit à petit on aime bien un peu raconter voilà, comment fonctionne l'exploitation et puis dans nos recettes, dès qu'on peut on met nos produits.
Évidemment.
Et Bathilde Lorenzetti, alors quel est le conseil?
On va les retrouver à l'Arena Paris
Justement c'est marrant parce qu'on est en train de travailler avec des sociétés qui nous proposent des jus de fruits, des cocktails alcoolisés, non alcoolisés, qu'on pourrait vendre dans les petites bouteilles. On trouve ça assez sympa. Moi, je suis assez fan de ce genre de produit. En plus, comme tout le monde, pendant le confinement, j'ai pris quelques kilos. Donc, du coup...
Nous en parlez pas.
Du coup, c'est bien en apéritif, sans alcool, c'est plus léger. Et puis, oui, globalement, je sais que nous, on est assez consommateurs de...
Donc, vous validez, Mathilde.
Je valide complètement.
Bon, c'est une histoire qui roule, alors. Merci à vous, Charles Gassier. Comment on peut vous aider, à part... Bon, on a parlé de vous. Vous êtes présent déjà à la grande épicerie. Vous avez besoin d'argent?
Alors non, nous, tout le monde a toujours un peu besoin d'argent, mais nous, on a la chance par rapport à deux startups de s'appuyer un peu sur l'entreprise familiale.
Je crois que justement, il faut que vous soyez un peu plus présent dans la grande distribution, c'est ça votre souhait?
C'est ça, voilà.
Donc là, si le patron de Carrefour vous écoute, il nous appelle et on lui donne votre numéro de téléphone.
Parfait.
Ça s'appelle FIT. Merci à vous, Charles Gassier, d'être venu nous présenter votre projet dans La France Bouge.
Et Bathilde Lorenzetti, vous restez avec nous. On dit également à demain à Nathalie Carré, si vous aussi vous avez envie de venir comme ça présenter votre entreprise, une seule adresse mail e1-lafrancebouge@europe1.fr et vous aurez comme ça peut-être la chance de faire partie de nos candidates ou de nos candidats en route pour les trophées Europe 1 La France Bouge.
Mathilde Lorenzetti, vous êtes la vice-présidente de Paris La Défense Arena. Vous restez encore avec nous quelques minutes si vous le voulez bien, suite et fin de votre émission.
Europe 1, La France Bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
La France Bouge, dernière partie de votre émission, toujours avec Bathilde Lorenzetti, hein, qui est la vice-présidente de la salle Paris La Défense Arena, la plus grande salle de concert d'Europe.
Et notre monde se transforme, on le voit chaque jour dans La France Bouge, et nos entreprises aussi. Bonjour Amaury Delarose.
Bonjour.
Vous êtes le dirigeant de Bellacom, ça existe depuis 2012. C'est une petite structure, hein. Il y a une vingtaine de salariés. Votre activité, c'est de distribuer des logiciels pour permettre à des entreprises, à des sociétés de faire des campagnes d'email marketing, comme on dit. Et alors vous, pour souder votre équipe, pour souder vos salariés, vous organisez des séminaires. Mais c'est pas juste un simple restaurant. Chez vous, ce sont des aventures extraordinaires. Vous avez organisé, je crois, du canyoning. Vous avez dormi dans des refuges. Racontez-nous.
Oui, alors en fait, effectivement, on a commencé des séminaires Bellacom en 2017 pour les 5 ans de l'entreprise. On s'est dit, bon là, ça y est, ça fait 5 ans, il faut qu'on fasse un truc sympa. Et on est parti 2 jours en Auvergne, où on a amené nos équipes faire du canyoning, donc avec de la descente en rappel, de la luge dans les descentes du canyon, de la tyrolienne, voilà. Et donc ça, c'était un peu le... Et on a dormi dans un refuge à 1400 mètres d'altitude, entouré de vaches et en mangeant du bon Saint-Nectaire. Voilà. Et là, quand on a vu l'effet sur les équipes, on s'est dit, ah oui, en fait, il faut vraiment qu'on le refasse, c'est trop trop bien. Voilà, on a été assez admiratif de voir certaines collaboratrices sauter de 7 mètres dans des puits d'eau. C'était impressionnant.
Ça nous a permis de
mieux connaître les équipes.
Bien sûr, bah, j'imagine quand vous avez votre collègue qui saute à 7 mètres, on le connaît un peu mieux.
Bah, d'un coup, le lundi matin, quand on arrive au bureau, effectivement, on regarde un peu différemment les gens. Et voilà, et c'est des gens, bah, quand on prend ce genre de risque, après, on est capable aussi de prendre ces risques dans le business. Et donc, c'est super intéressant.
Alors, je crois que vous avez fait une thalasso aussi en 2018 à Saint-Malo. Vous essayez de faire ça une fois par an. Là, bien évidemment, ça a été un petit peu compliqué avec le Covid, mais ce sera où le prochain?
Alors, le prochain, on part fin juin. En fait, on part tous les semestres. Et donc là, on part fin juin au Sherwood Park dans le 95, donc c'est en Ile-de-France. Et là, on amène les équipes faire un tour en quad. Et puis, c'est un parc où il y a beaucoup d'activités proposées. Alors, Covid oblige, il a fallu trouver une activité qui répondait au respect des règles sanitaires. Et donc, bah, l'avantage, c'est qu'un quad, on est tout seul sur son quad. Donc, clairement, il n'y a pas de tuer. Voilà, donc ça, c'est le prochain. Et puis, l'année dernière, on était parti faire du char à voile au Touquet. Où là, c'est pareil, on était, il faut le remettre dans leur contexte, hein, on était en juillet 2020, on sortait du confinement, tout le monde avait été un peu stressé, etc. Et on a fait la première terrasse en resto au Touquet, ils ont rouvert la terrasse pour nous. Et après, on a fait une grande balade de 2h30, 3h sur les plages du Touquet, avec chacun avait un sourire de dingue. Voilà, c'était très sympa.
Et d'ailleurs, ça marche tellement bien, Amaury Delarose, que le mot famille est ressorti hein, quand vous interrogez vos salariés. Ils parlent de l'entreprise comme d'une grande famille. Hein, donc, mission accomplie, on peut le dire.
Oui, mission accomplie. Effectivement, un jour, on a fait un travail sur les différentes valeurs de Bellacom et l'ensemble des collaborateurs de Bellacom ont dit, c'est vrai qu'on se sent un peu comme dans une grande famille ici. Et c'est vrai que quand on passe des moments qui sont complètement décorrélés de la vie du bureau au quotidien, d'un coup, il y a quelque chose en plus qui se passe et ce qui fait qu'on a aujourd'hui presque une bande d'amis en fait, hein, qui travaillent ensemble et donc sur des projets
et qui
opérationnels.
Passe, donc, en effet, comme ça, beaucoup de bon temps ensemble. Bathilde Lorenzetti, je rappelle que vous êtes la vice-présidente de Paris La Défense Arena. Un point qu'on voulait souligner aussi, vous êtes vaccinodrome. En
Absolument.
Ce moment, vous avez participé à cette aventure.
Bah, on souhaitait participer à l'effort national et puis sortir très rapidement de cette crise. Donc, on a mis à disposition de la Croix-Rouge Paris La Défense Arena pour vacciner le plus de personnes possible et on le sera jusqu'en septembre.
Et bah, ça fait du bien aussi d'entendre ça parce que vous n'êtes pas qu'une salle de concert.
Absolument.
Vous aussi, vous apportez votre utilité dans cette grande crise sanitaire et dans cette campagne de vaccination. On vous souhaite bonne chance, une bonne reprise, Bathilde Lorenzetti.
Merci beaucoup, j'espère que vous viendrez nous visiter
pour
les prochains
concerts. C'est lequel inédit alors finalement ?
Allez, ça y est, lâchez
le morceau. Allez,
vous avez envie.
On a plein d'événements, on a notamment quand même le Supercross qui revient, on va avoir Section d'Assaut, Iron Maiden, Green Day, Céline Dion évidemment. On va accueillir notre premier match d'MMA en juillet.
En avril 2022, alors c'est qui le grand nom ?
Alors quelqu'un qui est venu et qui revient. Voilà.
Et c'est pas les Rolling Stones ?
Ce n'est pas les Rolling
Stones. Allez, cherchons, on attend vos réponses.
La personne qui trouve aura une place gratuite.
Allez-y sur Twitter, sur europe1.fr. Merci à vous, Bathilde Lorenzetti, vice-présidente de Paris La Défense Arena. Merci d'avoir été notre invité. Emmanuel, nous, on se retrouve demain.
Ouais, bah, du
on
coup, pour trouver la réponse, c'est ça. On va se mettre dans un hôtel, on va attendre que ça se passe. On sera avec le patron des hôtels Océania. Là aussi, c'est en train de bien repartir.
Allez, à demain. Dans un instant, le flash suivi de Christophe Ondelat.